l'accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous, digne des Monty Python, loufoque et absurde, un véritable Titanic. Les qualificatifs ne manquent plus pour juger le feuilleton du Brexit. À la veille du sommet européen, les 27 qui ont reçu la demande de la première ministre britannique d'un report de la date de sortie de l'Union européenne sont gagnés par la lassitude et l'exaspération. Alors qu'il devait être conclu le 29 mars prochain et ne pas chambouler les élections européennes, rien n'est clair sur l'issue de cette sortie du Royaume-Uni. Lax Milota nous appelle de Bruxelles.
L'incertitude est insupportable, déclare la ministre française des Affaires européennes. Nous sommes épuisés par ces négociations, confirme son homologue allemand. Le porte-parole de la Commission européenne a appelé Londres à décider des prochaines étapes et à en informer l'Union européenne rapidement. Alors que la première ministre britannique devrait demander un report du Brexit demain lors du sommet à Bruxelles, Paris a prévenu qu'une extension n'était ni évidente ni automatique et a exigé de Londres une alternative crédible dans les tout prochains jours ou prochaines heures. Le négociateur des 27 pour le Brexit, Michel Barnier, réclame également une raison et une bonne raison à ce report car, dit-il, toute extension aura un coût économique et politique. Les Européens s'impatientent donc de plus en plus. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a déclaré dans une interview à la radio allemande qu'il n'y aurait pas de décision prise sur le Brexit lors du sommet jeudi et vendredi. Nous devrons probablement nous voir de nouveau la semaine prochaine parce que Madame May n'a d'accord sur rien au sein de son Conseil des ministres et au Parlement, a-t-il déclaré.
Hard Brexit.
Bonjour Amino.
Bonjour Catherine.
Alors, le fameux mot s'étale sur toutes les unes de journaux, sur toutes les lèvres de tous les responsables politiques européens. Et pourtant, alors que le continent entier spécule sur les conséquences de la sortie du Royaume-Uni, on sait très peu de choses sur ce que pensent les Européens du Brexit et de la manière dont sont conduites les négociations entre les représentants de l'Union européenne. Vous êtes donc allée pour nous, Ève, à la recherche de quelques informations sur la question.
Oui, et d'ailleurs, je commencerai par celle-ci. Le Brexit ne semble pas passionner les foules. C'est ce que l'on apprend dans une enquête commandée par Euronews et l'entreprise de sondage britannique Populus. Le sondage réalisé en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Italie, publié en février dernier, révèle même un fait étonnant. De nombreux Européens pensent que le Brexit a déjà eu lieu. C'est le cas de 28% des personnes sondées en France et en Italie. Apparemment, les Allemands suivent un peu plus l'affaire de près, car ils ne sont que 12% à le penser. Et les Britanniques, eux, qui sont quand même aux premières loges, donc évidemment plus au fait de l'actualité, sont seulement 2% à penser que la sortie de l'UE est derrière eux.
Alors, est-ce qu'on sait si les Européens redoutent les conséquences du Brexit dans leur vie de tous les jours ?
Selon ce sondage, la plupart des personnes interrogées se sentent plutôt incapables de fournir des raisons concrètes de s'inquiéter à propos de ce qui va changer dans leur vie, dans leur façon de consommer, de travailler, de voyager, même si globalement, ils pensent que les conséquences seront plutôt négatives, en particulier au Royaume-Uni. C'est surtout le cas en Allemagne, où ils sont près de 6 sur 10 à penser que le Brexit aura un effet surtout néfaste, et d'abord au Royaume-Uni. Ce pourcentage tombe à près de 40% en France et en Italie, et un petit peu moins au Royaume-Uni.
Alors, autre question à poser aux personnes interrogées, celle de leur regard sur l'Union européenne en général.
Et là, les avis sont très partagés, sans surprise au Royaume-Uni, où en gros, un tiers a une opinion négative, un tiers une opinion positive, et le dernier tiers déclare avoir des sentiments neutres au sujet de l'Union européenne, tandis que plus de la majorité des Italiens et des Allemands affichent une opinion positive de l'UE. Les Français sont un petit peu moins enthousiastes, avec seulement 40% d'opinion positive.
Et certaines catégories de population, Ève, semblent particulièrement inquiètes face à un Brexit dur, c'est-à-dire sans accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni.
À commencer par les chefs d'entreprise, notamment français. Selon, là aussi, un sondage réalisé par l'Institut Opinionway pour La Tribune, LCI et la Chambre de commerce et d'industrie, il serait 64%, une grosse majorité, donc à considérer que la sortie du Royaume-Uni de l'UE aura des conséquences négatives sur l'économie du vieux continent. Un tout petit pourcentage pense que l'impact du Brexit aura au contraire un effet favorable sur l'économie.
Les plus inquiets restent vraisemblablement les citoyens européens installés au Royaume-Uni.
Et oui, car ils n'ont aucune idée de ce qui va leur arriver. Selon un sondage, là encore réalisé par Opinionway, cet hiver et publié en janvier, 13% des Français installés au Royaume-Uni, ils sont environ 300 000, hein, veulent quitter le pays à cause du Brexit. Interrogés dans les journaux, la plupart semblent attendre d'en savoir plus et peut-être prendre plus tard une décision radicale. Certains ont carrément décidé de ne plus sortir du territoire avant d'y voir plus clair, de peur de ne jamais pouvoir rentrer chez eux.
Et pourtant, le gouvernement a donné quelques garanties aux expatriés.
Et ce, quelle que soit l'issue des négociations, les citoyens européens installés au Royaume-Uni bénéficieront des mêmes droits que les citoyens britanniques jusqu'au 31 décembre 2020. Au-delà de cette date, ils devront demander un nouveau statut de résident permanent pour ceux qui seront là depuis plus de 5 ans et provisoire à partir de 6 mois passés sur le territoire.
Voilà, une histoire encore à suivre. Merci Eve, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Après les manifestations massives en Europe vendredi et samedi dernier, notamment en France, contre le réchauffement climatique, le sommet européen du 21-22 mars a été censé évoquer le dossier, sauf si la question brûlante du Brexit phagocyte tous les autres sujets. Et c'est dans ce contexte qu'un rapport accablant a été publié il y a 15 jours. Les centrales à charbon des Balkans font tousser tout le continent. Très polluantes, elles émettent 20 fois plus de particules nocives dans l'atmosphère que les installations équivalentes dans l'Union européenne. Simon Rico.
La pollution atmosphérique issue des centrales thermiques au charbon dans les Balkans occidentaux engendre jusqu'à 3900 décès prématurés par an et le coût sanitaire de cette pollution pourrait atteindre les 11,5 milliards d'euros pour toute l'Europe. Voilà le diagnostic inquiétant de l'étude menée par 5 ONG écologistes sur l'impact environnemental des centrales thermiques à charbon des pays balkaniques candidats à l'intégration européenne. Au nombre de 16, ces vieilles centrales polluent autant que les 250 installées sur le sol de l'UE. À titre de comparaison, la centrale d'Ugljevik, construite à l'époque yougoslave en Bosnie-Herzégovine, pollue autant que toutes les centrales allemandes réunies. Mais c'est Kostolac B en Serbie qui détient aujourd'hui le triste record de la centrale la plus polluante. À L2, Kostolac et Ugljevik représentent la moitié des émissions de dioxyde de soufre de toutes les centrales des Balkans. Les faits exposés sont hélas bien connus. Depuis plusieurs années, les instituts sanitaires de la région alertent sur les maladies respiratoires et cardiovasculaires que font augmenter ces centrales à cause du dioxyde de soufre et des particules fines rejetées. Pour justifier ce recours massif au charbon, les États mettent en avant leur sécurité énergétique parce que leurs sous-sols sont riches en lignite, le charbon bon marché qui alimente leurs centrales. Et ils ne prévoient pas l'arrêt de ces technologies polluantes. Au contraire, avec le soutien de la Chine, de nouvelles installations sont déjà en chantier dans toute la région. Les 5 ONG à l'origine du rapport clament pourtant que le passage aux énergies renouvelables est techniquement faisable et même qu'il serait économiquement viable pour ces pays. Leur rapport les appelle donc à s'y atteler au plus vite, tout en sommant Bruxelles de prendre en compte la transition écologique dans le processus d'intégration des Balkans occidentaux à l'Union européenne.
C'est dans le nord-est de la Hongrie, une région où la minorité tzigane est très présente, que l'école Ambedkar s'est implantée depuis 10 ans. Inspirée par ce docteur indien qui a lancé un mouvement bouddhiste progressiste, le lycée donne une seconde chance aux jeunes de cette communauté défavorisée qui ne compte que 7% de bacheliers, alors que 70% des Hongrois décrochent le diplôme. Sauf que l'établissement est menacé par les dernières lois du gouvernement Orban. Reportage à Miskolcé de Florence Labruyère.
Aujourd'hui, cours de grammaire et de littérature au lycée Ambedkar. Les élèves lisent La ferme des animaux de l'écrivain George Orwell. La littérature, Kimberly adore ça. Cette adolescente rieuse est également bonne en maths. Comme tous les élèves du lycée, Kimberly appartient à la communauté rome. Plus tard, elle veut être économiste.
J'aurais sûrement été admise dans un autre lycée, mais ici on est soutenu financièrement. Et les profs nous emmènent dans des tas d'endroits, ils nous font découvrir plein de choses, ils nous stimulent.
Dans le lycée, il y a un internat où logent les élèves qui habitent très loin. C'est le cas d'Adriane Horvat.
Dans ma famille, personne n'a le bac. Si je réussis, mes parents seront fiers de moi.
«
Dalida Konya a 16 ans. Avec sa famille, elle a passé plusieurs années à l'étranger. Elle parle mieux l'anglais que le hongrois. Toutes les écoles de la ville ont refusé de l'accueillir, sauf le lycée Ambedkar.
Ici, ce n'est pas juste une école, c'est comme une famille. Les profs sont gentils, ils nous poussent à donner le meilleur de nous-mêmes. Ça me plaît beaucoup. Bon, là, je vais à un cours de musique, en français.
Je m'appelle Nicolas Beaupertuis, et je suis professeur de musique à l'école Ambedkar. Un lycée qui aide les jeunes adolescents roms, tziganes à se réintégrer dans un cursus scolaire, mais pas que. Pour moi, c'est aussi en fait se réintégrer dans la société finalement, rencontrer des gens. J'étais prof avant en collège, alors pas en France, mais en Suisse. Et en fait, je retrouve exactement les mêmes adolescents. C'est-à-dire que des fois, ils ont envie de faire, et des fois moins. Mais globalement, ils sont généreux, ils ont vraiment envie de participer. Mais c'est les mêmes adolescents.
Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner.
Ici, les élèves suivent le même programme scolaire que tous les écoliers du secondaire. Mais ils étudient aussi d'autres matières que les lycées hongrois n'enseignent pas. Les mythologies, l'histoire des pays en développement et les droits de l'homme. Tibor Derdak, directeur du lycée.
Les droits de l'homme, c'est aussi une chose dont les lycées hongrois ne parlent pas du tout. En Hongrie, les gens pensent que c'est quelque chose d'étranger pour nous. C'est quelque chose qui ne nous appartient pas. Par contre, nous, nous considérons les droits de l'homme comme une chose très importante dans l'éducation de ces jeunes, parce que le droit de ces jeunes est tout le temps violé par la société hongroise qui ne les accepte pas. Voilà.
Aider et encourager les Roms à passer le bac, c'est leur donner de meilleures chances pour réussir leur vie. Janos Orsos, président de la fondation qui gère le lycée.
La plupart de nos élèves qui ont passé le bac sont chefs d'équipe dans des usines. Ils ont un meilleur salaire que les autres. On veut qu'il y ait de plus en plus de tziganes qui paient des impôts. C'est ça notre objectif.
Mais le gouvernement hongrois n'incite pas les jeunes à étudier. Au contraire, il a abaissé l'âge de la scolarité à 16 ans. Il a aussi lancé un programme de travaux d'intérêt public dans les villages majoritairement habités par les Roms. Résultat, les jeunes balayent les rues ou font des travaux de voirie pour 200 euros par mois. Un salaire qui les attire, explique Heini Horvat, élève du lycée Ambedkar.
Dans mon village, beaucoup de jeunes ont choisi ces travaux collectifs. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux gagner plus d'argent et faire plein de choses dans la vie.
Les jeunes Roms sont de plus en plus nombreux à quitter l'école et Janos Orsos s'inquiète. Le lycée Ambedkar a moins d'élèves qu'avant.
On a de moins en moins d'élèves. En 5 ans, on en a perdu 200. On en avait 300. Aujourd'hui, ils sont seulement 86. Et donc, on a des problèmes financiers. Si le gouvernement ne nous aide pas, c'est notre dernière année.
Le lycée reçoit une aide de l'État, mais pour qu'il puisse équilibrer son budget, il faudrait qu'il ait au moins 150 inscrits. On est loin du compte. Le lycée risque donc de fermer.
On a tous en tête les images de la catastrophe du barrage de Brumadinho il y a quelques mois au Brésil. Cette tragédie paraît lointaine, pourtant en Europe aussi des barrages peuvent céder. C'est ce que redoutent les écologistes portugais pour un projet de retenue sur la rivière Tâmega dans le nord du pays. Fridão serait construite sur une faille sismique. Le gouvernement ne se prononcera définitivement qu'en avril prochain. D'ici là, les écologistes essaient d'obtenir un statut de fleuve libre, à l'instar de ce qui existe dans certains pays du nord de l'Europe. Et c'est le reportage de Marilyn Darcy.
Le barrage de Fridão, s'il était construit, serait une bombe à retardement pour la ville d'Amarante, située à 6 km. L'association des habitants contre Fridão en est convaincue. José Queiroz, l'un de ses représentants.
La ville est juste en dessous du barrage. Nous avons des milliers de mètres cubes d'eau au-dessus de nos têtes. Et nous le savons aujourd'hui, le lit de la Tâmega court sur une ligne de fracture tectonique. Une faille, en somme. Nous avons ressenti deux séismes il y a 2 ans, ce qui a prouvé que la faille est bien active.
Les écologistes s'appuient sur des données récentes pour contredire et battre en brèche les études préliminaires sur Fridão, dernier barrage encore non construit du plan gouvernemental élaboré il y a 10 ans. Les écologistes qui multiplient les démarches intensifient le lobbying auprès des élus pour mettre fin au projet. Ils ont obtenu en justice la suspension des travaux préliminaires jusqu'en avril. Ils s'opposent notamment au coût de l'ouvrage. Jean-Jonas de Mello de l'ONG environnementale Geota.
Fridan ne représenterait que 0,1% de l'électricité primaire produite dans le pays. Autrement dit, c'est insignifiant et de plus produit à un coût très élevé. Nos chiffres montrent que la production serait 2 à 3 fois plus chère que le marché actuel et de toute façon bien plus chère que d'investir dans la biodiversité énergétique.
Parallèlement, les écologistes essaient de créer un statut juridique pour protéger les cours d'eau. Anna Brazan, qui coordonne la plateforme Rios Livres, les rivières libres, en donne la définition.
Un fleuve libre, c'est un cours d'eau dans son état naturel. Un cours d'eau dont on n'a modifié ni le lit, ni les berges. On n'a pas touché à l'écosystème, ni aux réserves de biodiversité. Il est sauvage.
Il s'agit de penser la protection des cours d'eau comme on le fait pour un parc naturel ou pour une aire marine. Au Portugal, une étude scientifique est en cours pour cartographier les obstacles placés par les hommes le long des cours d'eau du bassin du Douro et de la Tâmega afin d'éliminer les ouvrages inutiles. Rui Barreira de WWF Portugal, partenaire du projet, donne l'exemple des moulins à eau.
Les ruines des moulins à eau sont toujours là, mais surtout, il y a encore les digues construites pour amener l'eau vers le moulin. Ça ne se justifie plus, les moulins ne servent plus. Ces digues sont des obstacles pour les poissons. Je pense notamment à la lamproie, dont nous sommes si friands. Les années où il y a moins d'eau, elles ne peuvent pas remonter le cours, elles disparaissent.
Un fleuve libre pour les poissons, mais aussi pour développer d'autres activités humaines, comme le rafting. Diogo Almeida.
Le rafting, c'est vraiment une super activité. Ça se pratique sur les fleuves libres et il n'y en a plus beaucoup au Portugal. La Tâmega est d'une beauté hors norme. Nous y sommes très attachés.
Diogo Almeida a fait de sa passion pour le rafting son gagne-pain en créant Émotion, son entreprise de tourisme sur la Tâmega. Comme de nombreux riverains du cours d'eau tumultueux l'hiver, Diogo redoute les menaces du barrage de Fridan.
Ce sera la fin du fleuve. Bien sûr, il y en a qui disent qu'on pourra encore faire du kayak sur le lac de retenue du barrage. Mais moi, je crois que la rivière va être envahie par les algues. Il n'y aura plus aucun intérêt du point de vue touristique. Avec les municipalités du coin, moi et d'autres, on mise fortement sur le développement touristique de la région de Basto. Mais si on laisse le barrage se construire, c'en est fini du tourisme.
Et du dernier cours d'eau libre du Portugal. Les conclusions de l'enquête seront connues à la fin de l'année. La décision de faire ou non le barrage de Fridan est imminente.
Chez les voisins espagnols, les soucis sont plutôt d'ordre sanitaire. Les Espagnols, les jeunes en particulier, consomment de plus en plus de cannabis. 11% en ont fumé en 2018. La culture du cannabis a explosé depuis quelques années et le trafic de marijuana est devenu même rentable. François Musso.
Auparavant, on avait affaire à des groupuscules qui contrôlaient des plantations sous serre isolées. On assiste à une augmentation annuelle de 60% des mafias. Ces groupes, disent les enquêteurs, sont importants, bien organisé, très implanté. Il faut dire que tout joue en faveur du développement de cette plante, dont la consommation personnelle est autorisée, mais pas son commerce. Le prix de vente est bas, le marché est très actif, et le cannabis bénéficie d'une bonne image dans la société. Selon le Centre d'investigation sociologique, 84% des Espagnols sont favorables à sa légalisation à des fins thérapeutiques, et 47% à sa légalisation totale, sans restriction. Le cannabis est aujourd'hui plus rentable que l'héroïne, et ce, en grande partie du fait qu'elle est essentiellement produite en Espagne, avec des coûts donc moindres, d'autant que les mafias se procurent des semences transgéniques qui permettent 4 récoltes par an. Et puis, à la différence du trafic d'héroïne, de cocaïne, voire même de haschich, les risques sont bien moindres pour ceux qui se lancent dans ce négoce. Un trafiquant de haschich encourt 5 ans de prison pour seulement 2,5 kg en sa possession. Un trafiquant de cannabis encourt 2 à 3 ans de prison pour une quantité inférieure à 10 kg.
Merci de nous avoir suivis à la réalisation. Il y avait bien sûr Françoise Grelot. Vous pouvez nous retrouver sur RFI.fr et bien sûr sur les réseaux sociaux.